Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, rien que pour vos oreilles, nous vous proposons un combat à la mort, enfin, on verra, entre Dave Grohl et Foo Fighters. Attends, j'ai fait de la merde.
Entre Dave Grohl et Foo Fighters, alors c'est qui le plus fort entre...
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast qui met en scène toutes les oppositions, même celles auxquelles personne n'avait pensé. Ici, on adore opposer des personnages, des personnalités historiques, des artistes ou même des animaux, juste pour savoir, c'est qui le plus fort. Alors si vous êtes fidèle à l'émission, vous savez qu'on a déjà fait un Zeus versus Odin. Aujourd'hui, c'est encore une baston de dieux, mais des dieux du rock'n'roll. Aujourd'hui, rien que pour vos oreilles, nous vous proposons un combat à la mort, enfin, on verra, entre Dave Grohl de Foo Fighters et Nirvana, et Josh Homme de Queens of the Stone Age et de plein d'autres trucs géniaux. Pour arbitrer ce combat, j'ai convoqué le host du Grohlcast, le podcast de référence sur Dave Grohl, j'ai même envie de dire au niveau mondial.
Tout à fait, au niveau mondial, oui.
Ben oui. Il a dit que ce serait plus dur pour lui de choisir entre nos deux concurrents du jour qu'entre ses enfants. Donc on le remercie d'avoir accepté d'accomplir ce crève-cœur. Stéphane Boulet, alias Papa, comment allez-vous ?
Eh ben écoute, bonjour Martin, ça va bien. Effectivement, voilà, c'était parti d'une blague puisqu'on t'avait invité dans le Grohlcast pour parler d'un album où il y a Josh Homme justement et Dave Grohl dessus. Et oui, effectivement, je ne sais pas encore. Voilà, moi j'ai préféré pas encore choisir. Je me suis dit ça va venir au fil de l'eau parce que là on est face à deux sommités qui ont fasciné une bonne partie de mon paysage culturel.
Oui, et de plein d'autres gens.
Oui, de plein d'autres gens, effectivement.
Alors, même si c'était assez drôle, parce que quand j'avais annoncé, j'ai commencé à teaser sur l'émission il y a quelques semaines, j'ai senti une fracture un peu entre deux générations.
Je crois qu'on peut le dire, ouais.
Une génération qui voyait très bien de qui on parlait, et une autre qui nous a dit, mais qui sont ces gens? qui sont ces vieilles personnes?
Donc, oui, parce que c'est vrai qu'on parle quand même de cinquantenaires ou presque cinquantenaires pour l'un d'entre eux.
Ouais.
Puisque, j'avais lu effectivement les réactions, même au sein de la très fréquentée radio qu'est France Inter, il y a des animateurs qui se demandaient d'où sortaient ces noms.
Tout à fait.
Effectivement, enfin, pour resituer un peu, tu l'as dit, c'est deux. Dieu du rock'n'roll, dieu vivant, déjà c'est pas mal, hein, c'est une première chose, d'être un dieu du rock'n'roll encore en vie, c'est déjà pas mal, il n'y en a pas tant que ça, et donc Dave Grohl d'un côté, donc qui a explosé en étant le batteur de Nirvana donc en 1991, qui après a formé notamment son groupe phare, c'est les Foo Fighters, et de l'autre côté c'est Josh Homme, donc Josh Homme qui venait de la formation Kyuss à la base et qui a aujourd'hui sa formation principale et qui a fait un peu exploser le personnage, c'est Queens of the Stone Age, et on lui doit aussi des collaborations multiples, mais bon, ça on en parlera justement un peu plus tard dans le podcast.
Oui, tout à fait. Ouais. Je note aussi que il y en a comme moi qui disent Josh Homme et d'autres qui disent Josh Homme, et je pense que t'as raison.
En fait, bah, j'ai raison dans le sens où justement j'avais parce que déjà un, je n'ai pas tort, voilà, c'est la première chose. Non, mais c'est surtout que dans des interviews, enfin il y avait plusieurs interviews pour la télé ou la radio où il reprécisait bien que ça se disait homie parce qu'il y avait justement des francophones, des Québécois à la con qui lui demandaient comment ça se prononçait et ça se prononce bien homie. Et d'ailleurs, bah, si on peut en attester, il y a le podcast qu'il anime sur la radio de iTunes, hein, le Beats One, qui s'appelle Alligator Hour, et il prononce bien Josh Homie.
D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, maintenant qu'on a resitué qui était qui, on va pouvoir se lancer dans l'affrontement. On va avoir, comme d'habitude, 5 points, 5 rounds, et au bout de ces 5 rounds, et ben, on saura qui est le plus fort, en tout cas selon nous.
En tout cas selon nous.
Qui est quand même l'avis le plus important.
Et bah, c'est le seul qui compte, hein, j'ai envie de dire.
Alors, premier round, là je pense que ça va être tranché. On voudrait savoir qui a le plus vendu entre les deux.
Voilà, bah, qui a le plus vendu. Donc effectivement, ça va être assez vite tranché, puisque, comme je l'ai dit en préambule, Dave Grohl a fait partie de Nirvana. Et s'il y a bien un groupe qui a vendu des disques dans les années 90, c'est Nirvana. Suite de prendre Nevermind, donc le deuxième album de Nirvana, et le premier avec Dave Grohl à la batterie, qui a vendu à lui seul 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Ouais. Et voilà, alors je suis pas sûr que les Queens of Stone Age aient réussi à atteindre un tel chiffre en cumulant même plusieurs albums. Voilà, rien que Nirvana, à mon avis, écrase tout le reste, et puis même les Foo Fighters.
Ouais.
C'est un groupe qui vend quand même beaucoup, beaucoup d'exemplaires. On tourne autour de. Du million et demi, 2 millions à chaque nouvel album, à chaque nouvelle sortie. C'est un groupe assez mainstream, faut dire aussi. Donc là, en termes de vente pure de disques, Dave Grohl, il est pas vraiment dans la même catégorie. Voilà, il a un peu triché, on va dire.
Oui, oui, oui. Bon, là, c'est vrai qu'il n'y avait pas photo. Après, Josh Homme avec Queens of the Stone Age ou ses autres collaborations, il a aussi des... Il a aussi des bons succès à son échelle, j'ai envie de dire, pour un gars qui vient de l'underground et de l'indé, il est quand même, il a une très très belle carrière. Et
effectivement, ouais. Non, il vend aussi pas mal d'albums. Enfin, c'est une légende. Il suffit de voir les concerts, les tournées mondiales qui sont pleines à craquer à chaque fois. Mais effectivement, c'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle. Même si, par exemple, Villains avait donc le dernier album des Queens of Stone Age, quand il était sorti, il avait fait top 1 dans les charts français, UK et US.
Ouais.
Mais le problème, c'est qu'il reste une semaine en haut des charts et ils sont assez vite délogés.
Ouais.
Ils ont un énorme succès d'estime, mais voilà, comme dit, c'est moins mainstream que les Foo Fighters et même que Nirvana à son apogée, quoi.
Oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Bon, il nous remplit quand même des Bercy, c'est déjà pas mal, mais
ah bah il remplit des stades, oui. Enfin, pas forcément des stades, mais en tout cas des très grosses salles, et puis des festivals. Enfin, c'est des têtes d'affiche de festivals, et ça cartonne à chaque fois, quoi.
Remarque, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que Queens of the Stone Age remplit des Bercy et Foo Fighters remplit des stades, quoi.
Bah, et c'est exactement ça. Bah ouais, c'est tout à fait ça. Bah, les Foo Fighters, quand il y avait, ils ont fait la réouverture de Wembley, quand ils ont réouvert le nouveau stade. Et d'ailleurs, ils ont mis à disposition la vidéo du concert gratuitement sur leur chaîne YouTube il y a quelques jours. Et tu vois la taille de Wembley remplie. Voilà. Bon, c'est un autre univers, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, 1-0 pour Dev. On va pas.
1-0 pour Dev, voilà.
On va pas insister sur ce point-là. Alors, deuxième point qui va être forcément un petit peu subjectif, mais bon, on s'en fout, c'est qui est le meilleur instrumentiste.
Oui, alors c'est vrai que c'est un point subjectif, mais en même temps il est très vaste, parce que instrumentiste, ça dit ce que ça veut dire, donc jouer des instruments, et ils jouent tous de plusieurs instruments, c'est-à-dire que Josh Homme, donc Queen of the Stone Age, il est guitariste, chanteur, il est parfois aussi au piano, mais aussi dans Eagle of Death Metal, c'est le batteur de Eagle of Death Metal, en tout cas sur les albums studio. Il a joué de la basse pour Iggy Pop, il est chanteur. Donc voilà, donc, de son côté, Dave Grohl donc, a joué de la batterie pour Nirvana, il joue de la guitare dans les Foo Fighters, il a joué de la basse dans d'autres projets, dans d'autres projets perso, il est aussi chanteur. Alors voilà, à quel sein va-t-on se vouer finalement pour trancher dans cette catégorie de multi-instrumentistes qui sont en plus assez hyperactifs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un instrument à la main, ils font toujours un truc quoi.
Ouais, alors j'ai peut-être une idée.
Vas-y.
C'est peut-être vocalement en fait. J'ai l'impression que Josh Homme a quand même des capacités vocales assez déjà assez variées. Et il est capable d'aller assez haut dans les aigus, de faire des choses assez travaillées mélodiquement sur le chant. Et je connais pas assez bien les albums de Foo Fighters pour savoir si c'est la même chose ou pas de l'autre côté. Mais je sais qu'il est quand même assez bon de ce point de vue-là en tout cas.
Je sais pas ce que effectivement, si on prend la voix comme un instrument, Josh Homme est un meilleur chanteur que Dave Grohl. Il y a même pas photo de ce point de vue-là. Comme tu l'as dit, il a une voix qui a plus de gamme, plus de souplesse, puis tout simplement qui est plus agréable en fait. Tout simplement, Josh Homme a une vraie belle voix, alors que Dave Grohl, il a une voix de rock'n'roll un peu plus classique et donc un peu plus limitée. Donc effectivement, sur ce point-là, Josh Homme gagne allègrement. Après, personnellement, dans le rock'n'roll, pour moi, la voix, ça a toujours été un instrument mineur. Personnellement, c'est peut-être le dernier truc que j'écoute dans un groupe, en fait. C'est le dernier truc qui me séduit. Ouais. C'est-à-dire que si le mec il a une belle voix et qu'en fait les parties guitare ou batterie sont pas inspirées, enfin moi ça m'intéresse pas typiquement, parce que j'ai toujours approché le rock'n'roll en tant que groupe, en tant que tel, et pour moi avoir un chanteur qui soit pas si bon que ça, c'est pas très handicapant, ne serait-ce que par exemple Metallica, tu vois, bon, même s'il a beaucoup progressé, mais je peux pas dire que la voix de notre ami Metallica soit la plus belle voix qu'on ait connue, quoi. Donc voilà, ça dépend des gens aussi où tu places le curseur. Après, d'un point de vue de la batterie, Josh Homme par contre tient pas du tout la comparaison. Oui. Donc on le voit sur Yellow Death Metal où il fait la batterie. C'est pas un mauvais batteur, mais c'est un batteur qui a un jeu de pur accompagnement, alors que Dave Grohl ce qu'il fait sur Nirvana, mais par la suite dans Vemcro Cultures, donc qui est un groupe qu'il a fait avec Josh Homme, ouais, et John Paul Jones. Voilà, on va s'y retrouver. Il a vraiment un style de batterie qui est assez extraordinaire, assez ouf. Même quand Dave Grohl joue avec Queen of the Stone Age, puisqu'ils ont joué ensemble dans Song for the Deaf, leur troisième album, la batterie de Song for the Deaf, pour moi, c'est peut-être un des éléments de batterie les plus puissants du rock'n'roll moderne, quoi. La partition de batterie elle est vraiment complètement ouf, quoi. Donc Dave Grohl est un bien meilleur batteur, pour moi c'est même pas une question de, là aussi il y a pas photo de ce point de vue là comme avec la voix. Après voilà, après la guitare, ça revient peut-être à départager parce qu'il y a un point partout, tu vois. la guitare sert à départager peut-être, voilà. Parce que pareil, la basse, ils en ont joué un peu, mais en fait, c'est pas leur instrument de prédilection.
Ouais.
Dave Grohl, par exemple, il joue de la basse sur un disque concept qui s'appelle Play, où il joue de tous les instruments. Bon, sur une chanson qui dure 25 minutes, il y a des lignes de basse qui sont vraiment hyper hyper intéressantes, mais en même temps, voilà, la basse que fait Josh Homme avec Iggy Pop sur l'album Post Depression est vraiment super groovy aussi. J'ai envie de dire que tu sens que c'est pas l'instrument de prédilection, mais tu sens qu'ils puissent dans leur autre dans leur autre créneau pour faire quelque chose de correct. À ce moment-là, ils sont un peu comparables. Après, reste la guitare. Après, voilà. La guitare entre Josh Homme et Dave Grohl, Martin, je pense que tu as un avis là-dessus.
Est-ce que j'ai un avis c'est difficile parce que je suis pas très calé sur ce qui est un peu technique et tout ça, mais j'ai l'impression que Josh Homme a cette capacité de créer des mélodies de guitare extrêmement ciselées, virevoltantes, assez complexes. Alors après, on a un point les meilleures chansons après, mais peut-être que il a une plus grande facilité, je sais pas, une plus grande technicité sur la guitare, mais c'est une intuition, je sais pas ce que t'en penses.
Bah écoute,
toi.
Moi je reprendrai un élément du documentaire Back and Forth Story of the Foo Fighters qui est sorti donc c'était quoi, il y a je sais plus 4 ans, 5 ans,
ouais.
Je sais plus. Donc qui était un documentaire sur les Foo Fighters et l'histoire des Foo Fighters, et forcément on parle de Nirvana parce que c'est un peu le point de départ des Foo Fighters, hein. C'est le groupe qu'il a monté pour éviter de tomber dans la dépression et continuer à faire de la musique.
Ouais.
Et en fait Dave Grohl expliquait sa façon à lui de jouer de la guitare, qui résumait assez bien, c'est que il dit la guitare c'est le premier instrument auquel il a appris à jouer. En fait il s'est mis à la batterie parce qu'il kiffait, puis surtout dans les groupes où il intégrait, il y avait tout le monde voulait être guitariste et personne voulait être batteur.
Ouais.
Du coup il se mettait à la batterie. Mais en fait il disait qu'il a jamais été un grand guitariste, et avec les années qui passent il se met à jouer de la guitare comme un batteur. Et en tant que batteur, je vois exactement ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que le jeu de Dave Grohl à la guitare, c'est un jeu qui est très mathématique, très décomposé. Il pense d'abord en termes rythmiques à la batterie, puis ensuite il le traduit à la guitare. Et ce qui fait qu'effectivement, en termes mélodiques, les Foo Fighters n'arrivent jamais à être aussi puissants que ce que peut faire Joe Shumey sur Queens of the Stone Age. En fait, effectivement, c'est même au-delà de la technicité, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un jeu de guitare qui est plus profond chez Joe Shumey, et les riffs de Joe Shumey, c'est une signature vraiment unique. Voilà, comme Jimi Hendrix à une époque, comme Tom Morello par exemple pour le Rage ouais. Against the Machine ou d'autres, il y a vraiment une signature. Une signature musicale dans la façon de jouer de la guitare chez Joe Shumey, alors que Dave Grohl, la plupart des riffs qui sortent, même s'ils sont bons, ils peuvent être joués par finalement ils auraient pu être inventés par pas mal d'autres musiciens, quoi. Donc c'est un guitariste plus limité, et à guitare effectivement Joe Shumey est un meilleur guitariste, quoi.
Bon, est-ce que c'est ici qu'on place le curseur?
Bah écoute, il faut bien trancher,
choisir c'est renoncer.
Voilà, il faut bien trancher. Il y a la batterie pour Dave Grohl, mais il y a le chant et la guitare pour Joe Shumey.
Bon.
Ça fait 2-1, on va dire Joe Shumey du coup. Hein.
Allez,
Joe Shumey.
Allez, bah va pour Joe Shumey. Et ça nous fait un partout.
Ça nous fait un partout, exactement.
Up on guns, bring your friends, it's fun to lose.
Alors, point suivant, qui a fait les meilleures collaborations? Sachant qu'ils ont collaboré ensemble pas mal de fois.
Ce qui fait... Oui, c'est ce que j'allais dire. Qui a fait les meilleures collaborations? C'est vrai que Joe Shumey a joué chez les Foo Fighters, Dave Grohl a joué dans les Queens of the Stone Age. Ils ont fait un groupe ensemble avec Them Crooked Vultures. Parfois sur scène, lors des Emmy Awards, des choses comme ça, ils se retrouvent ensemble pour jouer. Enfin voilà, du coup, termes de collaboration, il y a des collaborations croisées, quoi.
Oui, oui, oui. Alors on va dire, outre celles qu'ils font les uns avec les autres.
Voilà, outre celles qu'ils font les uns avec les autres. Du coup, là-dessus, moi, j'en citerai une pour chacun qui me semble emblématique. Dave Grohl, il en a fait plein. Une que j'aime particulièrement, c'est celle qu'il a fait pour le groupe Killing Joke sur l'album du même nom.
Ah oui.
Qui est une collaboration qu'il avait faite un peu pour. Parce qu'il aimait beaucoup Killing Joke. Donc c'est Killing Joke, pour resituer, c'est un groupe de wave post-punk. Enfin, c'est un groupe des années 80 qui était un peu mi-chemin entre la new wave et le punk. Et il y avait eu une bisbille en fait entre Killing Joke et Nirvana, parce que Killing Joke en fait a fait un procès à Nirvana pour plagiat pour le riff de Come As You Are.
Ouais.
Avec la chanson 18, donc 80, pardon, de Killing Joke. Donc il y a eu un procès. Alors le procès n'est jamais arrivé jusqu'à terme, et entre autres parce que Nirvana à l'époque avait des avocats des majors qui ont pu noyer le poisson. Bref, du coup ça s'était pas très bien terminé entre eux, et du coup pour un peu faire la paix, Dave Grohl en fait s'est rapproché de Killing Joke et a contribué à la batterie sur un album donc, qui s'appelle Killing Joke, qui est sorti donc en 2003 si je me souviens bien, qui à mon sens est le meilleur album de Killing Joke. Et sur lequel la batterie de Dave Grohl est apocalyptique, vraiment, je crois que c'est le mot. C'est un album complètement apocalyptique et la batterie, elle est extraordinaire. Et moi, c'est une des collaborations que je préfère de Dave Grohl. Et pour Joe Shomi, ben, je l'ai déjà dit avant, mais la collaboration qu'il a fait avec Iggy Pop, Post Pop Depression, qui est un album en fait qui tire son nom parce que Iggy Pop était un peu mal en point suite à la mort de David Bowie et que il avait besoin de rebondir. Et de fil en aiguille, s'est tourné vers Joe Shomi. Et aussi d'ailleurs dans le groupe, il y a le batteur de Arctic Monkeys. Qui participe aussi à Post-Pop Depression. Et donc ils ont fait un album et une tournée mondiale ensemble. Et Post-Pop Depression, c'est un des meilleurs albums d'Iggy Pop qui n'est jamais fait. À mon sens, il faut vraiment retourner à ses tout premiers pour trouver un album aussi inspiré, aussi puissant. Pour moi, c'est les deux collaborations que je retiendrai pour chacun d'eux, qui sont assez extraordinaires. Et voilà, maintenant si je veux choisir entre les deux, je sais pas, peut-être Post-Pop Depression parce que c'est une renaissance d'Iggy Pop que j'espérais plus, quoi.
Ouais, je suis extrêmement d'accord sur l'album d'Iggy Pop que j'ai trouvé vraiment génial. Et en plus, j'ai eu la chance de les voir sur scène dans la tournée où Joe Shomi était là pour accompagner Iggy Pop et c'était vraiment ouf, quoi.
C'était complètement ouf, ouais.
Donc, immense album, immense collaboration. En plus, il a eu d'autres collaborations assez intéressantes ou d'autres featuring assez intéressants. Mais après, si on va sur le côté des featuring un peu rigolo gadget, ils en ont tous les deux des très très beaux. Hein. Joe Shomi, je vois même Lady Gaga, j'étais pas au courant.
Joe Shomi aussi, il y a un truc qui est super important parce que il y a un groupe qu'il a, enfin un groupe, un concept
un
qu'il
collectif.
A lancé qui s'appelle les Desert Sessions.
Ouais.
Et les Desert Sessions, qu'est-ce que c'est? Ben ça porte son nom, c'est-à-dire que Joe Shomi donc est originaire de Palm Desert, donc en Californie, c'est un endroit complètement hostile et désertique, comme son nom l'indique. Et donc, il convoque des potes à lui pour faire des espèces de buff, et ça donne des disques qui s'appellent les Desert Sessions. Et là-dedans, en fait, tu trouves donc des collaborateurs réguliers comme Mark Lenagan, mais aussi PJ Harvey qui viennent taper un buff avec lui. Et c'est des disques qui sont vraiment, vraiment, vraiment ma boule. Alors, du coup, c'est un public qui est très, très pointu, c'est pas un truc qui se vend à des millions d'exemplaires, hein, les Desert Sessions, mais d'un point de vue musical, c'est un truc vraiment très très riche et que n'a pas Dave Grohl de son côté en termes de collaboration, par exemple, quoi.
Ouais, c'est vrai. Bah, après, ce qui est intéressant, tous les deux, pourquoi on a mis ce point-là aussi, c'est parce qu'ils sont tous les deux vachement tournés vers la collaboration, l'exploration, les duos improbables avec des gens qu'on n'attendait pas, et c'est vraiment chouette de leur part, quoi. Enfin, de l'un et de l'autre, c'est hyper intéressant à suivre musicalement, en tout cas, quoi.
Oui, mais c'est vrai que c'est ça qui est de très très révélateur, c'est que c'est des musiciens vraiment jusqu'au bout des atomes. C'est des types qui parfois dans leur vie ont joué jusqu'à l'épuisement. Ils ont tous les deux traversé des dépressions parce qu'à un moment donné ils jouaient tellement qu'ils n'arrivaient plus à se décoller de ça et que ça finit par un peu anéantir leur vie privée, et du coup c'est un truc qui ne peuvent que partager parce qu'ils ont tellement envie d'essayer plein de choses de leur côté qu'ils partagent avec plein de gens, ils font plein de trucs. Autre collaboration assez rigolote et connue par exemple de Dave Grohl, c'est Tenacious D, le groupe de Jack Black. Donc Jack Black, c'est quand même un acteur assez connu, hein, un acteur comique que tu retrouves dans pas mal de films qui fait pas mal de caméos. Et il a un groupe qui s'appelle Tenacious D, qui est un groupe qui est parodique dans les thèmes, mais qui essaie de faire une musique qui soit cool quand même. Enfin, il y a un côté comme ça. Et c'est Dave Grohl qui signe toutes les parties batterie de tous les albums de Tenacious D. Et c'est assez cool à entendre aussi. Enfin voilà, et c'est un truc, cette espèce de rock absurde que c'est le moment détente de Dave Grohl quand il fait avec Tenacious D. C'est un truc qu'il aime bien faire, quoi.
Ouais. Alors en vrac, on peut citer Puff Daddy.
Oui, c'est vrai, Puff Daddy.
Tom Petty and the Heartbreakers. David Bowie. Bon, là, je crois que c'était vraiment... C'était de la guitare sur un album de Bowie. Enfin, sur une chanson d'un album de Bowie.
Sur une chanson d'un album, ouais. Il y avait aussi Paul McCartney.
Cat Power. Ah oui, Paul McCartney, je ne savais pas.
Ah, si, si. Bah, en fait, ouais. Dave Grohl n'a pas joué sur un disque de Paul McCartney. Par contre, lors de la d'une tournée américaine assez récente, il a fait plusieurs dates, je sais plus, genre 3 ou 4 dates, où il venait taper la batterie sur la tournée de Paul McCartney tranquillement.
Pas mal.
Et en retour, Paul McCartney est venu taper la guitare dans un de ses albums, dans un des albums des Foo Fighters. Donc tu vois, voilà.
D'accord.
Ouais, entre gens de bonne compagnie, on se rend service, tu vois.
Ah, là-dessus, en termes d'anglais, bon, il a bossé avec Alex Turner, Josh Homme, oui. Mais peut-être pas en collaboration directe, mais il a eu un peu de piano de Elton John sur...
oui, sur un disque.
Sur un disque. Si, il a fait les chœurs sur un disque d'Arctic Monkeys. Bon, bref.
Voilà. Alors, bah c'est pareil, voilà. Il y a aussi les Strokes qui sont venus jouer un peu
Strokes,
avec
ouais.
lui.
Primal Scream, Peaches.
Voilà. Mastodon aussi. Il a fait des featuring avec Mastodon. Ouais. Donc ça, c'est peut-être moins grand public, on va dire. Mais c'est en même temps un éventail. C'est-à-dire que c'est un type qui fait le lien entre Mastodon, donc qui est un groupe de heavy metal, voilà, assez lourd, et Elton John, tu vois.
C'est quand même. Oui, c'est pas trop mal.
Ouais, c'est pas trop mal en termes d'éventail de possibilités, quoi.
En termes de grand écart à Jean-Claude Van Damme. Et je vois qu'il a fait Uncle aussi, j'aime beaucoup Uncle.
Ouais, il a fait effectivement avec Uncle. Ouais.
Bon, bah écoute, il va falloir encore renoncer et choisir ou pas, je sais pas.
Bah ouais, après ça dépend de... ça dépend de tes affinités, voilà, C'est difficile. C'est difficile de.
On a le droit d'avoir des choisir. Points qui se finissent par un match nul. Hein, ça arrive hein, des fois.
Ouais, mais là en termes de collaboration, en plus, enfin, je veux dire, c'est que quand ils sont ensemble, réunis ensemble en termes de collaboration, ça donne des albums qui sont généralement assez puissants.
Ouais.
Donc oui, effectivement, c'est comme tu dis, ça s'annule de ce point de vue-là, quoi.
Bon, écoute, hein, ça va être match nul. Hein.
Match nul, ouais, sur ce point-là.
Alors, point suivant, également un peu subjectif, mais c'est pas grave. Qui est le plus rock'n'roll ?
Alors, et là me vient une autre question, je vais te répondre une question par une question.
Qu'est-ce que le rock'n'roll ?
Qu'est-ce que tu entends par être rock'n'roll ?
Ah.
Moi j'ai ma petite idée, mais je pense que chacun a son... à sa façon de voir.
Bah écoute, être rock'n'roll, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, mais la première qui me viendrait à l'esprit, c'est, bah, je sais pas, casser sa loge, boire des bières et éclater la bouteille pour démarrer une bagarre dans un bar avec quelqu'un qui a dit du mal de John Carpenter, ou enfin je sais pas, ce genre de truc.
Voilà,
quoi.
Ce genre de choses, ouais.
Mais bon, j'en conviens que la définition du rock'n'roll et de l'attitude de l'esprit rock'n'roll est très subjective, donc peut-être que
bah
t'en
oui,
as
non,
une autre à mettre à opposer.
Bah écoute, bah, de ce point de vue-là, sur cette attitude-là que tu décris, celui qui gagne sur cette attitude-là, c'est évidemment Josh Homme. Ça, y a vraiment pas à discuter. Sex, drug and rock'n'roll. C'est Josh Homme, parce que le sexe occupe une bonne partie des paroles et des obsessions musicales des Queen of Stone Age. La drogue aussi, ben, le Queen of Stone Age, ça appartient au stoner, et le stoner, en fait, c'est un sous-genre du rock qui est dérivé de l'état second dans lequel te mettent les drogues. Il a même eu lui-même des problèmes de drogue. Sur scène, c'est pas rare que Josh Homme soit défoncé au moins à l'alcool. Ouais. J'ai déjà vu faire des concerts complètement bourrés, et pourtant il assurait comme une bête, mais tu vois qu'il était objectivement complètement rond. Donc de ce point de vue là voilà. Puis en plus Josh Homme, il est connu pour être un type qu'il faut pas trop faire chier. C'est quelqu'un qui n'est pas très habile en termes de relations interpersonnelles, déjà au sein de son groupe, hein, il se sépare souvent de membres, et même dans les concerts il s'embrouille souvent avec des fans, à tort ou à raison. Enfin, il y a des fois, il y a une vidéo qui est restée célèbre où à un moment donné il a pris à partie un, un mec dans la fosse parce que il emmerdait tout le monde, et à un moment donné il se mettait à pousser spécifiquement une nana et la faire chier, du coup il arrêtait le concert et puis il était à deux doigts de lui péter la gueule, il lui a demandé de quitter la salle. D'autres fois c'est beaucoup moins raison, il y a des gens qui ont, une photographe notamment qui s'est pris un coup de pied de Joe Chomi lors d'un concert,
ouais,
pour rien,
triste,
voilà, c'est juste qu'en fait il donnait un coup de pied dans un élément du décor, en fait elle était juste derrière, il l'a pas vu, puis ben du coup il s'est pris en pleine gueule.
Ah oui.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez impulsif, il s'embrouille souvent aussi avec les gens de la sécurité de ses concerts. Ça c'est un truc, c'est une signature aussi, il aime bien s'embrouiller avec ces mecs là, donc des grosses baraques hein, de 2 mètres sur 2 environ, qui sont là pour assurer sa sécurité, et il va s'embrouiller avec eux, donc voilà, c'est de ce point de vue là, sur ce credo là, à la Lemmy Kilmister, Joe Chomi, voilà, il est très 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 rock'n'roll de ce point de vue là, mais t'as effectivement le définition quoi.
Ouais. Bah oui, c'est-à-dire que je sais pas comment tu verrais ça, mais le rock'n'roll c'est aussi une capacité à faire le couillon, à défier les normes, à prendre son public à contre-pied, mais pas pour le faire chier non plus. Et sur tout ce côté-là, Dave Grohl est quand même très 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 fort quoi.
Oui, voilà, bah, c'est vrai que Dave Grohl a une approche différente. Alors Dave Grohl, il a commencé dans le punk, hein, il faut le savoir, mais il a toujours été sur un versant un peu, pas doux, mais en tout cas apaisé du punk, dans le sens où c'était pas un punk violent, mais c'était plus un punk par frustration et par envie effectivement de se libérer. Il faut savoir que Dave Grohl, naturellement, est un hyperactif, presque même au sens médical. Alors ça, il a jamais été diagnostiqué quoi que ce soit, mais en fait quand tu lis les biographies, quand tu lis les récits qu'en faisait sa mère, etc., tu vois qu'en fait globalement c'était un gamin qui sautait partout tout le temps et que tu ne pouvais pas contenir, et il a gardé ça. Et c'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait lui il a fumé beaucoup de joints quand il était jeune, mais il se droguait jamais parce que bon, déjà hein, il a eu l'expérience avec Nirvana, ça l'a un petit peu calmé hein, voir Kurt Cobain littéralement se détruire de l'intérieur, c'est un truc qu'il avait bien séché de ce point de vue-là.
Ouais.
Mais surtout, en fait, il disait qu'en fait, il était tellement surexcité en permanence qu'il prenait pas de drogue, parce que même les joints, en fait, ça ne calpait pas. Au contraire, ça ne faisait qu'empirer son état d'excitation. Il se mettait à taper partout, d'où la batterie d'ailleurs. Donc voilà, c'était un type qui déborde d'énergie naturellement, et qui lui, par contre, fait du débordement d'énergie de façon positive. C'est-à-dire que c'est un mec qui va tout le temps être là pour remonter le moral des autres, pour faire des blagues à la con, pour lancer des défis stupides. Voilà, c'est vraiment un type qui il a la réputation d'être l'un des types les plus cool du circuit, parce que c'est un mec qui se prend pas la tête, qui fait monter les fans sur scène, qui tape des bières facilement. Enfin voilà, c'est un type qui a besoin d'extérioriser son espèce de besoin de communiquer, cette espèce de joie de vivre en permanence. Voilà, et c'est pas du tout la même approche que Joe Chomi quoi.
Ouais, et puis alors il y a deux trucs quand même assez intéressants avec Dave Grohl. De ce point de vue-là, c'est le premier, c'est les clips des Foo Fighters qui sont
oui,
quand même.
Oui.
Je sais pas quelle est l'implication de Dave Grohl là-dedans, mais enfin bon, il a quand même au moins validé. Donc il y a eu quand même beaucoup de clips de Foo Fighters qui sont hyper drôles. Il y en a un qui est très très connu, mais qui date des années 90. Et, je sais plus comment s'appelle le titre, mais tu vas pouvoir me le dire. Celui où il y a au fond la pub Mentos.
Oui, c'était sur Big Me.
Big Me, ouais.
Big Me, qui était le clip effectivement qui parodie la pub Mentos, et c'est le clip qui a propulsé les Foo Fighters auprès du grand public en fait,
ouais.
Puisqu'ils tournaient à fond sur MTV, que le clip est complètement débile effectivement.
Il y a eu même le clip d'Everlong de
Michel Gondry.
Michel Gondry, qui est absolument incroyable. Et puis après, je sais pas, sur scène, ils sont quand même, ils ont fait quand même un sacré paquet de trucs vraiment, vraiment hallucinants. Là, tu pourras en parler bien mieux que moi, mais entre le Rickrolling en live et de voir Dave Grohl jouer après s'être pété la jambe, c'est bien ça, non, qu'il avait fait ?
Oui, c'est ça. En fait, effectivement, lors de la tournée de Sonic Highways, il se pète la jambe. Il me semble que c'était en Suède. Donc les urgences, enfin les médecins débarquent, donc il pose un plâtre de fortune et il revient sur scène avec son plâtre pété sur une chaise pour terminer le concert. Donc déjà ça c'est cool, et en plus ce qu'il faut savoir c'est que cette année ils sont repassés au même endroit, et que dans le public, il y avait le médecin qui l'avait soigné ce jour-là, et que du coup, Dave Grohl s'en aperçut, il l'a fait monter sur scène pour l'accompagner lors d'une chanson sur scène, quoi. Voilà. Et à la suite de cette jambe cassée, ils ont fait le Broken Leg Tour, donc la tournée jambe cassée, où il s'était constitué un énorme trône, façon trône de fer, mais pas avec des épées, avec des guitares, en fait, avec des manches de guitare partout. Il était donc sur son trône de guitare, en train de chanter avec sa jambe pétée. Oui, des anecdotes comme ça, t'en as plein. Effectivement, c'est une approche du live qui est différente. C'est des bêtes de scène tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie assez folle. Mais Josh Homme est plus dans la catharsis musicale, on va dire. Vraiment, c'est qu'il est sur l'instrument et il est dans la communication avec le public à travers la musique. Et il y a vraiment, c'est vraiment ça qui passe. Dave Grohl, c'est un guignol, quoi. C'est un clown sur scène. Moi, je me rappelle quand je les avais vus, c'était à Rock en Seine, je sais plus quelle année, c'était il y a fort longtemps. Et il a commencé le concert, il disait ouais, je pourrais vous parler pendant 10 minutes, mais en fait, les mecs du festival, ils m'ont dit c'est une heure, pas plus. Alors du coup, maintenant, je vais fermer ma gueule et je vais jouer, je vais faire que ça. et il balance des trucs comme ça. Et puis il passait son temps. Ah oui, je me rappelle, il était malade ce jour-là et il passait son temps à glairer, donc il crachait partout. Et à chaque fois, il faisait oh putain, c'est dégueulasse, vraiment, je suis désolé. Et puis il reprenait ses chansons comme ça.
Et le ils ont eu un coup d'éclat aussi, non, avec un, je crois que c'était dans le même concert que La Fouille, ils ont fait monter Rick Astley sur scène à leur place, avec
oui.
Des mecs qui faisaient une manif homophobe ou je sais plus, enfin c'était, y a pas un truc comme ça?
Si, en fait, ils ont repris donc Never Give You Up de Rick Astley en le faisant monter sur scène. Donc j'aime autant dire qu'en termes de What the Fuck, c'était pas mal quand tu viens voir un concert de rock. Et effectivement, il y avait, alors je crois que c'était aux États-Unis, je sais plus si c'était Los Angeles ou Chicago. Enfin, il y avait une gigantesque manifestation homophobe devant une salle de concert. Et eux, ils ont loué un bus ouvert. Quand je dis eux, c'est les Foo Fighters. Ils ont loué un bus ouvert, donc avec le toit ouvert. Ils étaient tous installés en train de jouer, et ils sont passés à côté en les ricrolant, en fait, en faisant Never Give You Up, chanter au milieu de la manif homophobe pour disperser la manif, quoi. Voilà, ça c'est aussi les Foo Fighters, quoi.
Est-ce que rien que pour ça, on donnerait pas le point à Dave Grohl? Juste sur ça.
C'est ça, c'est moi, le truc, c'est que je trouve que Josh Homme est un musicien extraordinaire. Maintenant, à savoir à qui des deux je veux passer la soirée, je préférerais Dave Grohl. Voilà, tu vois, à mon avis.
Ouais, moi aussi, il me fait un petit peu peur, Josh Homme.
Oui, c'est ça, c'est... Déjà, la différence, c'est que Josh Homme est plus grand que moi, donc déjà, je suis intimidé. Et je suis pas petit, pourtant, mais... Mais non, mais effectivement, je pense qu'en termes de passer une soirée agréable et détendue, t'as moyen plus facilement avec Dave Grohl, quoi.
Bon, très bien. Bah écoute, ça nous fait 2-1 pour Dave Grohl. Et il nous reste encore un.
On va passer au point final, c'est ça?
Ouais, le point final. Alors, dernier point. J'avais mis qui a fait les meilleures chansons ou qui gagnera un combat à main nue.
Qui gagnera un combat à main nue, on a déjà répondu en fait. Hein. Globalement, bon. le bûcheron de 2 mètres rouquin là, qui fait chier des vigiles, je pense que c'est lui. Je pense que Dave Grohl à main nue, il a pas beaucoup de chance là-dessus.
On va rester qui a fait les meilleures chansons. C'est Turbo Subjectif, comme disent les jeunes.
C'est beau,
n'est-ce pas? Mais bon, écoute, il faut bien choisir. Hein. Moi, je connais beaucoup plus la discographie de Josh Homme, mais en même temps, est-ce qu'on a le droit d'inclure les chansons de Nirvana dans ce round-là?
Ah, bah, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit?
Je sais pas.
Ouais. Alors, on peut se dire qu'effectivement sur Nevermind, il a une part créative plus limitée que sur In Utero, parce qu'il est arrivé finalement un peu tard dans l'existence de l'album et qu'une partie des beats de Batrick sur Nevermind, il n'en est pas complètement l'auteur, puisqu'il s'est basé sur sur ce qu'avait fait le précédent batteur. Par contre, In Utero, c'est un album full Dave Grohl, quoi. Enfin, pour le coup, c'est un album qui n'aurait jamais existé en tant que tel sans la patte de Dave Grohl à la composition, à mon sens, quoi.
D'accord. Bon, c'est intéressant.
Après. Mais après, In Utero, Manque de Bol, c'est l'album le plus détesté Nirvana généralement. Donc, je sais pas si c'est vraiment très très intéressant de l'aborder comme ça, du coup.
D'accord. Y a quoi déjà comme chanson sur In Utero de Nirvana?
Bah, alors, la plus connue de In Utero, et c'est peut-être la moins bonne de l'album, c'est Rape Me.
D'accord.
Voilà, qui est une chanson un peu particulière. Mais In Utero, c'est un album qui est beaucoup plus abrasif que Nevermind, avec des trucs vraiment très 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 agressifs. Enfin, t'as Scantless Apprentice ou Red Low Friendly Unshifter, qui sont des chansons que j'adore, mais qui sont des trucs vraiment pas faits pour passer à la radio, on va dire. Mais à côté de ça, t'as des trucs comme Dumb par exemple, ou l'Apologies, qui sont des monuments de délicatesse, tu vois.
D'accord, ok. Bon, c'est pour resituer aussi un peu le...
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est vrai que moi, je connais plein de chansons de Nirvana, mais j'aurais du mal à dire à quel album elles appartiennent, etc. Moi, j'ai beaucoup plus d'affinité avec Josh Homme, donc je ne sais pas si mon avis compte, mais je suis extrêmement fan de tout Queens of the Stone Age. Et je connais... Alors, par contre, je n'ai jamais réussi à accrocher à Chaos. Chaos. Chaos, comme on dit d'ailleurs.
Ouais, Chaos. Voilà. Chaos. Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Soit c'est Chaos, soit c'est Chaos.
D'accord.
Voilà, c'est écrit K-Y-U-2-S.
Ouais.
Moi, j'ai toujours dit Chaos, mais a priori, c'est plutôt Chaos. Alors, je ne sais pas
d'accord.
trop. Quoi.
Bon. En tout cas, j'ai pas réussi à rentrer dedans encore au moment où on se parle. Je sais pas toi ce que t'en penses de.
Ah bah moi, que c'est une des formations rock les plus importantes des années 90 pour moi. C'est,
ouais.
Mais c'est vrai que c'est un groupe qui sent la poussière, quoi, on va dire. C'est vraiment c'est du rock très très lourd, très 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 sans concession. Enfin, il y a vraiment un truc, effectivement, c'est pas un truc qui est facilement abordable. C'est beaucoup moins mélodique que Queen of the Stone Age. C'est vraiment, on est à fond dans ce que expliquait le stoner, cette espèce d'état second, quoi. C'est du rock qui se base sur des rythmiques vraiment entêtantes, et sur cet aspect je t'attrape sur la bretelle de l'autoroute et je te traîne sur le bitume, quoi. T'as vraiment ce côté là quoi, qui peut déplaire.
Bon, alors du coup, c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que sur ce coup-là, j'accorderais mon point à Josh Homme, mais bon, je voudrais savoir surtout toi qui aimes beaucoup les deux, ce que t'en penses.
C'est là où la question est compliquée, et parce que on avait parlé effectivement des qualités d'instrumentiste de chacun. Et le fait que Josh Homme soit un guitariste d'une plus grande, plus mélodieux, plus technique, plus riche, ça fait déjà un énorme point par rapport aux chansons des Foo Fighters. C'est-à-dire que j'adore les Foo Fighters, mais pour moi, il y a pas un album des Foo Fighters qui se rapproche du meilleur album des Queens of Stone Age, ou même peut-être même des trois meilleurs, quoi. Pour moi, tu prends les trois premiers albums des Queens of the Stone Age, j'échangerai jamais la discographie des Fighters pour ces trois albums-là, qui sont extraordinaires à tout point de vue, que ce soit mélodique, que ce soit rock'n'roll, que ce soit énergie. Il y a vraiment un truc assez ouf là-dedans. Ce qui n'empêche pas, Dave Grohl d'avoir participé à des trucs monumentaux, dont le troisième album des Queens of the Stone Age. Donc voilà, comme quoi, on s'y retrouve. Et effectivement, aussi, malgré tout, à Nirvana, on se demandait ce qu'on les inclut dedans ou pas. En même temps, il a participé à l'enregistrement, il était là. Il n'était pas guitariste compositeur principal parce que c'était Kurt Cobain, mais l'apport de Dave Grohl a été déterminant dans ce qui va devenir le son Nirvana, en fait. Je pense que c'était d'ailleurs le producteur de Nevermind, hein, Butch Vig, cherchez son nom, qui le disait lui-même. C'est que lui, quand ils enregistraient Nevermind, l'album est véritablement né au moment où il a fait passer les essais à Dave Grohl pour la batterie de Smells Like Teen Spirit. où ils avaient un beat un peu de départ qui était assez bidon pour juste habiller la chanson, voir un peu la structure. Et puis quand Dave Grohl est arrivé et a fait la fameuse intro avec le et là Budvig a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai su qu'on avait le bon batteur et j'ai su qu'on allait dans la bonne direction pour l'album. Donc voilà, il a quand même aidé vraiment à modeler le son Nirvana aussi. Mais moi, j'ai envie de te dire, la réponse, on l'a peut-être déjà par avance, puisque tu l'as dit, je co-présente le Growlcast avec mon ami Benjamin François, et on avait fait un épisode zéro, où on avait classé, puisqu'on est bien classé des trucs hein, dans le RPU, on avait classé les meilleures chansons auxquelles a participé Dave Grohl, puisque ouais. Voilà, c'était le point de départ. Donc on avait isolé 20 chansons qui nous semblaient les meilleures ou les plus emblématiques. C'était un hors-série de After Eight hein, qui s'appelait le Growlcast et c'est devenu l'épisode 0 du Growlcast.
Ouais.
Et on avait classé toutes ces 20 chansons voilà, de celles qu'on préférait à celles qu'on préférait, mais un petit peu moins. Du coup, le paradoxe là-dedans, c'est que la chanson qui est arrivée numéro 1, pour nous la meilleure chanson auquel Dave Grohl ait jamais participé, c'est No One Knows, qui est une chanson de Queen of the Stone Age. Mm. Voilà.
Bon.
Donc,
je pense que ça répond à la question du coup.
C'est voilà, ça répond à la question. C'est qui a fait les meilleures chansons. Je pense que malgré tout, Josh Homme reste un auteur, un songwriter capable de sortir des chansons plus puissantes que Dave Grohl tout seul. Dave Grohl, en fait, il lui faut une personnalité très forte pour sortir des chefs-d'œuvre absolus. Et ça, il s'est parfaitement accompagné. Alors que Josh Homme, lui, peut sortir un chef-d'œuvre absolu. Entre guillemets de son chapeau quoi.
Bon, ok, bah écoute, ça nous fait un match nul au global hein. Finalement tu t'en sors bien, t'as pas à choisir entre tes enfants.
Ah bah tu vois, voilà, je savais bien, je savais bien.
On garde en tête que c'est le combat à main nue qui peut départager éventuellement.
Voilà. De toute façon, la meilleure réponse à ce genre de question, c'est toujours l'octogone.
L'octogone
sans règle. Voilà.
Sans règle. Bon, bah écoute, merci Stéphane. Je pense que, au-delà du fait qu'on a réussi à ne pas trancher ce débat, mais on l'a quand même poussé à bout. On est allé au bout. On n'a pas fait semblant. On s'est pas caché.
Non, on ne s'est pas caché. On a osé.
On a osé. Et puis, je pense que pour les jeunes générations qui nous écoutent, ça leur a peut-être donné envie de se plonger dans l'œuvre de l'un et de l'autre. Bon, et bah, où peut-on te retrouver ?
Eh ben écoute, dans le Growlcast où nous dissertons en long, en large, à travers sur Dave Grohl, Super Ciné Battle où nous établissons le classement ultime du cinéma, rien que ça, et dans Parle à mon Luc où on parle sur les films de Luc Besson. Voilà, c'est un peu notre acte de contrition permanent. Et After Eight, enfin, où nous débattons de façon plus large sur un peu tous les sujets qui nous passent par la tête.
Très bien. Et puis on peut te retrouver aussi sur Twitter si jamais il y a un greliste ou un homien qui n'était pas d'accord et qui voudrait faire part de sa frustration que le débat n'ait pas été tranché.
Mais on ne peut pas trancher, c'est comme ça. Il y a des fois c'est impossible. Il y a des fois c'est impossible. Je ne veux pas prendre cette responsabilité, c'est surtout ça en fait. Je ne veux pas être l'homme qui aura tranché entre Dave Grohl et Josh Homme, je ne peux pas.
Écoute, c'est les auditeurs qui vont le faire du coup.
Bah oui, c'est les auditeurs qui vont le faire.
Les
exactement.
Auditeurs n'ont qu'à aller voter sur c'estquiplusfort.com et pour qui est leur dieu du rock'n'roll préféré. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Ça aide au référencement et puis ça effacera cette ignoble une étoile que j'ai reçue. Là. Je ne sais pas qui a fait ça, mais
c'est pas moi.
Mais je te retrouverai et je te tuerai. Plaisante. On se retrouve bientôt pour un autre sujet qui ne sera peut-être pas musical ce coup-ci, mais on verra. Ça n'a pas encore été déterminé. Eh bien, portez-vous bien et à bientôt.
Bah merci pour l'invitation, puis à bientôt.
Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.